La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Albert Camus s'est toujours tenu à l'écart des grands discours systémiques et des grilles de lecture totalisantes. Ce refus des doctrines a fait de lui un solitaire, bien souvent critiqué, qui ne s'en tenait qu'à son éthique personnelle pour juger de son action et de celle des autres. Et c'est la grande force de la pensée d'Albert Camus de n'être jamais démodée, car elle n'a jamais cherché à être dans la mode. Nous allons parler cette semaine du penseur qu'il était, mais également et surtout de l'artiste qui l'a revendiqué d'être. Demain mardi, avec Agnès Piquel, nous plongerons dans ses carnets qui étaient son laboratoire créatif. Mercredi, nous interrogerons la Méditerranée de Camus et son rapport à l'Algérie en particulier, en compagnie de Martine Mathieu Job. Et puis jeudi, nous parlerons enfin de l'engagement politique dans la vie de cet intellectuel. Ce sera avec Jean-Yves Guérin qui fera pour nous un portrait de l'artiste en citoyen. Et aujourd'hui,
j'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit, la beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir. Mais dans les pires années de notre folie, ce souvenir ne m'a jamais quitté. C'est lui qui, pour finir, m'a empêché de désespérer. Et l'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer, dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi. Malgré tous mes aveuglements, j'ai toujours su au contraire que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers et nos décombres. J'ai toujours su aussi que la mer existait, et c'est pourquoi j'ai vécu au milieu de ce temps mortel.
Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Albert Camus, nous sommes en compagnie de Virgile Tanaz, auteur dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard de plusieurs volumes, dont ceux sur Tchekhov, Dostoïevski, Saint-Exupéry et aussi bien entendu celui sur Albert Camus. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette biographie de Camus, vous commencez par dire que la vie de cet écrivain, c'est l'histoire d'une méprise. Mais de quelle méprise, de quel ordre serait cette méprise selon vous, Virgile Tanaz?
Mais je crois que on ne peut pas comprendre la vie de Camus si on ne considère pas que, de son point de vue, qui n'est pas le nôtre, tout a été un échec. Il a voulu représenter les pauvres, et surtout les pauvres gens d'Algérie. Et au moment de la guerre, au moment où il s'est battu pour sauver les gens d'où il sortait, il n'a pas pu le faire. Il a raté sa vie intime. Et puis, il n'était pas satisfait de sa littérature. Voulait écrire Guerre et paix. Et probablement que il l'aurait écrit.
Il était peut-être en train justement d'écrire
le premier homme,
Guerre et paix en écrivant Le premier homme.
C'est revenir à ses sources et revenir à ce qui aurait pu être son chef-d'œuvre.
Donc il y a pour vous une sorte de dichotomie entre l'enfant Albert Camus, le milieu dans lequel il est né, et finalement ce qu'il est devenu. Il n'a pas réussi à réconcilier, selon vous, ces deux parties, ces deux moments de sa vie?
Je voudrais vous donner une citation. Personne autant que moi n'a été aussi sûr de conquérir le monde par des voies droites. Et maintenant, où donc a été la faille? qui est-ce qui a faibli et tout d'un coup a tout déterminé. Et de telles citations de ces carnets, on peut en trouver beaucoup. En fait, je crois que tout se passe au moment où il arrive au lycée d'Alger.
Alors j'ai quand même envie, avant qu'on en arrive là, de vous contredire sur cette idée que Albert Camus estime qu'il a raté beaucoup de choses dans sa vie, parce que finalement Camus, et vous le dites vous-même dans votre biographie Virgile Tanaz, a été un homme plus ou moins heureux, avec des difficultés bien entendu, comme tous les hommes et toutes les femmes, mais il y avait une vitalité très forte chez Albert Camus, qui était quelqu'un aussi de solaire.
Oui, sauf que il n'a pas eu le soleil qu'il voulait. D'ailleurs, à la fin de sa vie, réfugié, si vous voulez, à Lourmarin, mais il voulait quitter la France. Il voulait aller en Italie ou en Grèce, retrouver le soleil. Et cet éloge du bonheur, je crois qu'assez souvent, c'est plutôt une nostalgie que la description d'une réussite.
Alors pourtant, pardonne-moi de vous contredire encore un petit peu. Je voudrais citer ce que disait l'écrivain algérien Mohamed Dib quand il parlait d'Albert Camus. Quand vous le rencontriez à l'extérieur, dans la rue, au café ou dans un restaurant, c'était vraiment le méditerranéen expansif, avec les tapes sur le ventre ou dans le dos et des choses de ce genre. Il avait la plaisanterie facile, c'est Salim Jeki, cite Mohamed Dib dans son dictionnaire des romanciers algériens. C'était qu'une façade, ça ?
Je pense que oui. Je pense que... vous savez que dans ses carnets, on trouve des confidences. Il a des moments de folie et il a pensé au suicide. Et ça, dans les années 55, 56, 57. Probablement que la blessure était beaucoup plus grave, et ce n'est que vers la fin de sa vie qu'il revenait vers ce qui était ses sources véritables et où il pouvait trouver la justification d'une existence qui jusqu'à ce moment-là avait pris un chemin qui n'était pas le sien. Il est arrivé, il le dit quelque part, il est arrivé là où il ne voulait pas arriver, il est estimé pour ce qu'il n'est pas.
Et, c'est-à-dire pour ce qu'il n'est pas ?
Je crois que on le considérait, surtout dans le monde intellectuel parisien, comme une exception, une espèce d'écrivain pas très bon. D'ailleurs, au moment où il a reçu le prix Nobel, dans la presse sont apparus des commentaires, on l'a donné le prix, on savait qu'on le donnait à des écrivains morts, c'est quelqu'un qui met tellement bien en scène son silence qu'on se demande si jamais il a écrit quelque chose. Et il y a le public, le lecteur simple, le lecteur qui sonde de sa poche quelques francs pour acheter les livres, qui a fait un succès contre les milieux parisiens.
Alors reprenons un petit peu du début l'histoire de la vie d'Albert Camus. Il faut d'abord dire, Virgile Tanaz, que c'est une vie très courte, 47 années seulement, qui commence en Algérie en 1913, à Mondovi exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord de son père qui va disparaître très très rapidement dans la vie d'Albert Camus ?
C'est une famille très pauvre. Ils font partie de ceux qui, des Camus, disparaissent dans l'histoire. Son père était orphelin.
Orphelin à la fois de père et de mère.
Oui, de père et de mère. Il a été élevé dans un orphelinat. Il en a voulu toujours à sa sœur. Mais ils étaient plusieurs enfants, ils ne pouvaient pas s'occuper d'eux. Et Et puis, il a eu la chance d'entrer dans une entreprise de vinification où on lui a appris à écrire. Il s'occupait d'une vigne à l'est de l'Algérie. Il est parti à la guerre. Il est mort un mois après.
Et dans des conditions d'ailleurs assez tragiques, parce que il est déjà touché par un éclat d'obus qu'il écrit à sa femme pour la rassurer, alors que sans doute il sait déjà qu'il va mourir.
Je n'en sais rien. Sauf que ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que c'est pas lui qui l'écrit, parce qu'il a perdu la vie. Mais il sait que sa femme ne sait pas lire, ne connaît pas son écriture, et a prié quelqu'un d'autre. Il lui dit que ça va bien. Il lui envoie une carte postale avec l'hôpital. En fait, c'est un ancien monastère, je crois. Et il fait une croix sur la fenêtre où il est soigné. Et quelques jours après, il meurt.
Et on envoie l'éclat d'obus extirpé la famille, du crâne de Lucien à la famille et à la femme.
Ouais. Qui me donne à sa mère, parce que la grand-mère de Camus joue un rôle très important dans la vie de la famille, qui le garde dans une boîte en fer blanc à biscuits, où elle garde aussi l'argent.
Donc il y a quelque chose de tragique dans cette succession de pertes. Et tout le monde est un petit peu à moitié orphelin, finalement, dans la famille Camus, jusqu'à Albert Camus lui-même.
Oui, donc, sauf que je crois que cette période, les premières années de Camus jusqu'au lycée, c'est sa seule période heureuse. Il n'avait pas conscience qu'il n'a pas le père parce qu'il l'avait perdu trop tôt, donc il ne savait pas ce qu'il avait perdu. Il ne savait pas qu'il est pauvre parce qu'autour de lui, tous les enfants étaient pauvres. Et je crois que c'est ces années-là qui ont été pour Camus les années heureuses.
Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de sa mère, Virgile Tanaz ?
Analphabète, d'ailleurs comme sa grand-mère aussi, femme de ménage, probablement atteinte d'une débilité mentale à la suite d'une maladie. Elle parlait très très peu, difficilement. D'ailleurs, l'oncle de Camus aussi, il n'était pas très très bien. C'est une famille qui a accumulé depuis des générations la misère.
Mais entre le fils et la mère, il y a quelque chose qui se joue de très très puissant.
Certainement, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Pour Camus, sa mère était le symbole de ce monde auquel il appartenait et qui était le monde de silence, et que lui voulait sortir du silence pour lui donner la parole.
Et sa mère est morte la même année qu'Albert Camus lui-même.
Je ne le savais pas.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire du père d'Albert Camus, tel que il a cherché à se la réapproprier dans son livre Le Premier Homme, dont voici tout de suite un extrait.
Une rumeur sourde venait seule de la ville par-dessus les hauts murs. Parfois une silhouette noire passait entre les tombes lointaines. Jacques Cormery, le regard levé vers la lente navigation des nuages dans le ciel, tentait de saisir derrière l'odeur des fleurs mouillées la senteur salée qui venait en ce moment de la mer lointaine et immobile, quand le tintement d'un seau contre le marbre d'une tombe le tira de sa rêverie. C'était à ce moment-là qu'il lut sur la tombe la date de naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion qu'il ignorait. Puis il lut les deux dates, 1885-1914, et fit un calcul machinal. 29 ans. Soudain, une idée le frappa qui l'ébranla jusque dans son corps. Il avait 40 ans. L'homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui. Et le flot de tendresse et de pitié qui d'un coup vint lui emplir le cœur n'était pas le mouvement d'âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu'un homme ressent devant l'enfant injustement assassiné. Quelque chose ici n'était pas dans l'ordre naturel, et à vrai dire, il n'y avait pas d'ordre, mais seulement folie et chaos, là où le fils était plus âgé que le père. La suite du temps lui-même se fracassait autour de lui, immobile, entre ces tombes qu'il ne voyait plus, et les années cessaient de s'ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Elle n'était plus que fracas, ressac et remous, où Jacques Cormery se débattait maintenant aux prises avec l'angoisse et la pitié.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Jacques Cormery ressemble évidemment beaucoup à Albert Camus, et dans cet extrait peut-être encore plus que dans les autres.
Ah oui, mais tout à fait. On ne peut savoir quel aurait été le développement narratif romanesque, mais il est certain que le premier homme, c'est au départ un roman autobiographique.
Et pourquoi est-ce que ça aurait pu devenir, selon vous, son guerre épée?
Parce que c'était une épopée. Il avait l'intention de faire l'épopée de ces gens qui supportent l'histoire. L'histoire va au-dessus d'eux, mais ceux qui portent l'histoire, qui fait que l'humanité existe encore, ce sont ces gens-là qui n'ont pas d'identité, parce que ils n'ont pas des propriétés à laisser en héritage, parce qu'ils ne sont pas dans les actes des notaires. Et parce qu'en fait, on parlait de si on peut dire, l'échec littéraire, qui n'en est pas un, de Camus. C'est qu'après avoir écrit la Peste, qui est une parabole parfaite de la condition humaine, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ou bien se répéter, ou bien se contredire, mais non, c'est pas vrai, la peste est l'expression parfaite de notre condition. Donc, pendant des années et des années, on voit très bien dans ses carnets, vous allez parler demain, il essaie de trouver des structures romanesques qu'il ne trouve pas. Et tout d'un coup, au fil et à mesure qu'il avance dans la réflexion, il se rend compte d'ailleurs, parce qu'il était porté probablement depuis le départ par cette passion fondamentale, il se rend compte que le roman d'une société, de monde, se trouve pas dans une parabole qui est la peste, se trouve dans l'histoire de ces hommes et de cette, je n'ose pas dire classe sociale, de cette couche sociale d'où il est sorti.
Du monde innocent et chaleureux des pauvres, monde renfermé sur lui-même comme une île dans la société, mais où la misère tient lieu de famille et de solidarité.
Tout à fait.
Il faut parler un petit peu de cette enfance solaire, de ce jeune garçon qui va devenir un intellectuel, mais qui n'est pas destiné à l'être, qui fait beaucoup de foot, qui va beaucoup à la plage, qui est un garçon finalement pour qui l'aspect physique de la vie, sensuel de la vie, compte beaucoup.
Oui, mais il est un garçon très vite, encore que pour le foot, il doit faire attention parce que sa grand-mère lui a mis des clous dans les souliers, sur la semelle des souliers, et elle vérifie tous les soirs pour voir s'ils ne sont pas abîmés par le sport. Et il va avec son oncle à la plage, et dès qu'il est petit, il est sur les épaules de son oncle.
Mais est-ce que ça ne l'a pas influencé finalement dans sa façon de voir le monde, cette enfance-là en plein air quand même?
Il est certainement un homme de la Méditerranée. Il est un... vous savez, à un certain moment, de nouveau, on faisait... il dit dans tout ce que la France a fait de moi. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il était, puisqu'il est devenu un autre grâce à la France. Je cherchais ce que j'avais, l'Espagne que j'avais dans le sang.
Sa mère était d'origine espagnole, d'ailleurs, aussi.
Donc, il y a cette vitalité, cette... esprit de sacrifice dans l'Espagne, cette espèce de grandeur.
De tragique.
Oui, tout à fait. et que la culture française a essayé de dompter, de civiliser, de mettre dans des normes.
Alors la culture française, elle passe quand même par l'école, évidemment, et par un instituteur, Louis Germain, dont l'auteur Albert Camus parle également dans Le Premier Homme, en faisant quelqu'un qui s'appelle Monsieur Bernard.
Jacques n'avait pas connu son père, mais Monsieur Bernard lui en parlait souvent sous une forme un peu mythologique. Et dans tous les cas, à un moment précis, ce dernier avait su remplacer ce père. C'est pourquoi Jacques ne l'avait jamais oublié, comme s'il avait reconnu inconsciemment, étant enfant d'abord, puis tout au long de sa vie, le seul geste paternel, à la fois réfléchi et décisif, qui fut intervenu dans sa vie d'enfance. Car Monsieur Bernard, son instituteur de la classe du certificat d'études, avait pesé de tout son poids d'homme, à un moment donné, pour modifier le destin de cet enfant dont il avait la charge. Pour le moment, Monsieur Bernard était là devant Jacques, dans son petit appartement des tournants Rovigo, presque au pied de la Casbah. Il était là, vieilli, le cheveu plus rare, des taches de vieillesse derrière le tissu maintenant vitrifié des joues et des mains, se déplaçant plus lentement que jadis, et visiblement content dès qu'il pouvait se rasseoir dans son fauteuil de rotin, laissant paraître son émotion mais droit encore, et la voix forte et ferme. Comme au temps où, planté devant sa classe, il disait « En rang par deux !»« Par deux, j'ai pas dit par cinq !» Cet homme-là, qui parlait aujourd'hui à son canari et qu'il appelait petit, Jacques n'avait jamais cessé de l'aimer. Même lorsque les années, l'éloignement, puis enfin la Deuxième Guerre mondiale, l'avaient en partie puis tout à fait séparé de lui.
Extrait donc du Premier Homme, lui ici, par Reda Kateb. C'est une évocation fidèle de ce professeur, Virgile Tanaz, à qui il doit évidemment beaucoup, cet instituteur même plutôt.
Oui, tout d'abord, il avait l'impression, quand il était en classe, qu'on ne lui enseignait pas quelque chose, mais qu'on lui faisait don d'un savoir, parce qu'il le méritait. Et ça a fait de lui un élève tout à fait remarquable, et cet instituteur a senti qu'il doit continuer ses études. Or, sa grand-mère était contre. Elle a dit « Nous sommes trop pauvres pour que tu puisses continuer tes études. » Son frère plus grand, Lucien, et il travaillait déjà, il n'a pas continué ses études. Et Louis Germain est venu à la maison, et il a réussi à convaincre la grand-mère qui décidait tout dans cette famille, de permettre à Albert de continuer ses études.
Et d'aller jusqu'au prix Nobel.
Il lui écrit « Après ma mère, la première pensée a été pour vous ».
Voilà.
Dans la lettre à Louis Germain.
Ce prix Nobel qui sera donc dédié à Louis Germain. C'est à lui qu'on doit finalement d'avoir Albert Camus. Il faut le dire et le répéter. C'est peut-être aussi aux années de lycée qui sont également importantes pour Camus. Alors après cette enfance assez enchantée malgré tout que vous nous avez décrite, Virgile Tanaz, il y a le moment du lycée où il comprend qu'il est réellement pauvre. Il ne l'avait pas vu avant à ce point-là.
Mais je crois que c'est à ce moment de rupture. Il y a toujours dans Le Premier Homme une phrase que je veux citer. C'est à personne, en tout cas au lycée, il ne pouvait parler de sa mère et de sa famille. À personne dans sa famille, il ne pouvait parler du lycée. Il entre tout d'un coup dans un autre monde. Et je crois que toute sa vie, Camus a eu la conscience qu'il vient d'un monde et qu'il pénètre dans une autre. Il s'est posé la question dès les années de lycée, qu'est-ce qu'il fait dans cet autre monde? Quelle est la justification de ce qui pouvait être une trahison? Et il s'est dit, j'y vais parce que dans ce monde se trouve le pouvoir. Ce monde qu'il haïssait, c'est peut-être beaucoup dire, mais qu'il considérait corrompu et criminel. Il dit la propriété, c'est le meurtre. Une vie qui est dédiée à l'argent, c'est une vie qui n'existe pas.
Et en même temps, il y a la culpabilité très grande d'avoir honte de dire que sa mère fait des ménages.
Oui, donc c'est à ce moment-là qu'il se dit « Je veux entrer dans ce monde par la littérature, par la culture, par la littérature, et je vais devenir le... » Non pas, je fais pas des études pour devenir ingénieur, médecin ou pharmacien, avoir un salaire, mais pour avoir un instrument du pouvoir qui est la littérature, et donner la voix, donner la parole à ces gens pauvres qui ne parlent jamais, qui sont enfermés dans le silence.
Et ça, est-ce que vous le retrouvez dans la littérature de Camus, ou est-ce qu'il s'élève à un niveau qui est davantage universel, où finalement il est moins question de classe sociale que de l'être humain ?
Oui, justement, je crois que dans ses livres, parce qu'il ne se posait pas cette question quand il écrivait. Il a fait l'étranger, parce que c'est venu comme ça. D'ailleurs, il avait des doutes, il se demandait si jamais ce livre va être publié un jour. Et puis, en fait, ce qu'il a préoccupé, c'était la condition humaine. Dans toute sa vie sociale, dans son journalisme, dans ses prises de position, il est représentant de cette pauvreté. Dans la littérature, on ne le retrouve pas tellement, sauf dans le premier homme, c'est-à-dire au moment où il revient après avoir passé par ses expériences littéraires.
Et où il s'autorise.
Qui lui donne le droit, en fait, d'entrer dans le monde de la littérature.
Et à prendre la parole aussi pour raconter vraiment son histoire à lui, sans la transposer beaucoup.
C'est pour avoir le droit de le dire, il lui faut une autorité. Cette autorité, il le gagne par ses livres.
Alors il y a aussi quelqu'un qui va beaucoup l'aider dans ses années de lycée, c'est Jean Grenier, un autre professeur qu'il prend sous son aile. C'est à lui aussi qu'on doit d'avoir Albert Camus.
Je commence à me demander. Certainement, il lui ouvre des portes, et c'est très très important. Mais Jean Grenier fait partie de ce monde parisien. Il écrit sur les îles. Il fait des belles phrases.
C'est un très beau roman que Albert Camus adore. Il est enthousiasmé par les îles de Jean Grenier.
Ouais, mais c'est pas du tout la vocation de Camus. Sauf que il faut passer par là. Et Jean Grenier lui ouvre des horizons qu'il n'avait pas. Il lui ouvre des portes que sinon il aurait eu du mal à franchir. Et comme Camus est quelqu'un d'une fidélité absolue, il va garder cette reconnaissance envers Jean Grenier, avec lequel je crois qu'il ne partageait pas beaucoup d'opinions.
En tout cas, c'est grâce à Jean Grenier qu'il publie ses premiers textes, assez jeune, dans la revue Sud, qui est à l'époque une revue très prestigieuse.
Oui, mais c'est surtout par Jean Grenier qu'il et par Pascal Pia ensuite, qui est encore plus important, je crois, dans la destinée de Camus, qu'il arrive dans le clan Gallimard. Mm-hmm. Et là, il y a encore un nom qu'on doit citer, c'est Malraux. Les autres avaient des doutes. C'est toujours très très difficile de croire que justement le livre qui vous arrive sur la main comme ça d'un inconnu est un chef-d'œuvre et les gens doutaient. Malraux a dit à Gaston Gallimard, c'est un chef-d'œuvre, tu le publies, un point, c'est tout.
Oui, il l'a bien rendu à Malraux, parce que quand il a eu le prix Nobel, il a dit que c'est pas lui qui l'aurait dû l'avoir, mais que c'est Malraux qui aurait dû l'avoir à sa place.
Oui, parce que ce temps-là, le prix Nobel récompensait encore la littérature.
Alors, il faut dire également qu'il y a, parmi toutes les difficultés que Camus avait affrontées, la question de la tuberculose qui a failli l'emporter. C'est un homme malade quand même, Albert Camus, pendant de nombreuses années.
C'est dans les classes terminales qu'il découvre qu'il est tuberculeux. C'est avant la guerre, c'est avant l'invention de la pénicilline. C'est une maladie mortelle. Mmh. Donc, je crois que dans la compréhension de ce que Camus va devenir, il y a aussi ça, la confrontation fondamentale avec la mort.
Et qu'est-ce que ça produit chez lui, selon vous ?
Le sentiment de la condition humaine. C'est la peste. On est condamné à mourir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais cette condamnation, qui parfois est justifiée par une maladie, une pandémie, hein, mais en fait, à plus ou moins brève échéance, avec un prétexte ou un autre, on est emporté.
D'où l'absurdité de la vie ?
Oui, ce qui fait que là, il a encore une... c'est ce qui le pousse vers le sens. Il dit qu'il faut trouver à notre vie un sens qui ne peut pas être détruit par la mort. Et c'est à la recherche de ce sens qu'il est parti en littérature.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Après les classes préparatoires auxquelles Camus a assisté, il s'inscrit en 1932 à la fac de philosophie d'Alger. Là, il rédige une thèse de philosophie avec un sujet qui est métaphysique chrétienne et néoplatonisme plotin et Saint-Augustin. Est-ce un philosophe ? Est-ce déjà un écrivain, Virgile Tanase ?
C'est un écrivain. Mais cette thèse de philosophie, au moins, l'a persuadé d'une chose qu'on ne fait de la, qu'on ne pense que par les images.
Tout roman est une pensée. Tout roman est une philosophie.
Oui, est une philosophie. Et il n'est pas un créateur de concepts. Il parle de la condition humaine, de la situation de l'homme, de la position de l'homme et finalement de la société et de cet éclairage particulier de la vie sous le signe de la mort, qui est une façon de fait, la philosophie classique, c'est la dispute honteuse d'ailleurs avec Sartre, qui l'a envoyé à ses classes, qui dit qu'il ne pense pas philosophiquement parce que il n'est pas dans les critères de normal sup. Il y a, je ne sais pas si c'est un philosophe, il a une pensée. Ouais. C'est ce qui compte.
Mais alors, ce sentiment de l'absurde dont on parle et qui revient toujours chez Albert Camus, comment est-ce qu'il l'articule à ce moment-là de sa vie avec l'engagement politique ? Parce qu'il y a un moment, un flirt tout de même avec le Parti communiste, il va prendre sa carte, pas très longtemps. Comment ça se passe tout ça ?
Mais je crois qu'on doit revenir à son sentiment de devoir envers qui sont là sa couche sociale. Et il a maintenant un certain pouvoir et il a l'impression que le Parti communiste, d'ailleurs Jean Grenier lui conseille d'entrer au Parti communiste, pas pour des bonnes raisons d'ailleurs, il va avouer ensuite, il dit que pour un jeune de sa qualité, c'était une façon de parvenir. Et le fait qu'il entre avec beaucoup de sincérité, après des hésitations dans le Parti communiste, mais pas pour ce qui est de son idéologie, il dit que quand il entre dans une cause, il s'y met à corps et âme et ne pourra plus s'occuper de sa littérature. Puis les circonstances font qu'il doit gagner sa vie.
Il a toujours dû gagner sa vie d'ailleurs, même quand il est étudiant, pendant les vacances il est obligé de travailler.
Oui, il travaille pendant les vacances, d'ailleurs il a fait un prêt d'honneur auprès de l'université. Il entre dans le journalisme, un métier d'ailleurs qui, il écrit à Jean Grenier, est un métier décevant. Et qui va le décevoir profondément.
Et pourtant ce sera quand même un grand éditorialiste.
Ouais. Justement parce que et c'est ce qui fait l'échec de son journalisme et de son journal de combat, parce que il n'écrit pas au jour le jour. Gide a une formule merveilleuse, il dit que le journalisme c'est ce qui sera moins vrai demain qu'aujourd'hui. Camus, chaque fois qu'il fait un éditorial, qu'il part d'un événement d'actualité, mais il fait une philosophie, il l'inscrit dans l'histoire. C'est pas facile. Le fait est que il travaille au journal d'Alger, journal de gauche socialiste, et il entre au Parti communiste, ce qui lui donne la possibilité de faire un théâtre populaire.
Et c'est ça peut-être le vrai engagement de Camus, c'est son engagement dans le théâtre populaire, non?
Oui, justement, c'est... vous savez, je suis encore étonné pour voir que aujourd'hui, quand on veut faire du théâtre populaire, on fait du théâtre boulevard. Quand Camus, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il entre en conflit avec la direction locale du Parti communiste, c'est que il fait la Malraux, il fait Lope de Vega, il fait Dostoevsky, il fait Pushkin, c'est-à-dire les grands auteurs. D'ailleurs, toujours, il a à la fin de sa vie, quand Malraux voulait lui donner un théâtre, il voulait justement mettre à la disposition de ceux qui ne vont pas au théâtre les grands auteurs, la grande littérature.
Oui. Alors un mot peut-être sur le premier mariage de Camus, parce que c'est un mariage assez symptomatique, étant donné que lui, venant de classe très populaire, se marie avec une jeune fille plutôt bourgeoise. Ça ne va pas d'ailleurs sans poser problème.
Oui, tout à fait. Il y avait un oncle, Lascaux, qui était boucher, franc-maçon, et qui avait dans sa bibliothèque de Bakounine jusqu'à Joyce, qui venait d'être publié. Et qui lui a dit non, c'est pas bien d'aller dans cette classe sociale. Je fais un raccourci, mais plus tard, quand il sera invité à l'Élysée, sa mère va lui dire n'y va pas, c'est pas notre monde à nous.
Et c'était devenu un peu son monde à lui, quand même.
Oui. Quand je vous disais qu'il est arrivé là où il ne voulait pas y être. Et ça fait partie de la bourgeoisie algéroise.
Alors une bourgeoisie tout de même assez spéciale en ce qui concerne cette jeune fille qui est jeune, elle a 18 ans, lui en a 21, il s'installe dans un appartement assez cossu, sauf que cette jeune fille est extrêmement libre, un petit peu sur tous les plans, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a plu à Albert Camus.
Oui, certainement, mais... Je dis que parce que séduire Simone Huet, c'est pas un exploit. Mais devenir, quand on est né dans le quartier pauvre, devenir le mari de Simone Huet, c'est déjà quelque chose un premier signe d'ascension sociale. Malheureusement, cette fille se drogue et jusqu'à la fin de sa vie, elle ne va pas réussir à se débarrasser de ce vice.
Oui. Donc c'est une séparation au cours notamment d'un voyage en Europe centrale, où d'ailleurs il prend conscience qu'il appartient vraiment à la Méditerranée. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette série. Et puis lui-même devient un homme qu'on pourrait dire un homme à femme. Et il le sera toute sa vie.
Il le sera toute sa vie. Et... Je vous rappelle une autre phrase du premier homme. Jacques vivait avec quatre femmes, donc il avait une vie vide.
Oui. Donc il a comme un regret d'être cet homme à femme.
Oui, puisqu'il ne séduit pas, il cède et il a un sentiment de culpabilité parce que dans ce monde à lui. L'individu est un maillot entre les parents et les enfants. Et il s'est parfaitement inscrit dans cette chaîne, sauf qu'il n'arrive pas à cause de son désir, de la sexualité, encore qu'elle dit que la sexualité débridée, c'est le désordre du monde. Lui, il essaye tout son effort et de mettre de l'ordre, du sens, c'est-à-dire de l'ordre dans l'existence, et en même temps, il n'arrive pas à se soustraire à ce désordre apporté par...
Y compris lors de son second mariage, qui va être assez mouvementé également. En 1937, vous ne commentez pas ce, cette dernière chose.
Non, mais je suis persuadé que il a beaucoup aimé et estimé sa femme, et contrairement à ce que l'on dit au moment de sa maladie, parce qu'elle a été une dépression très grave, il était tous les jours.
Extrêmement affecté, oui.
Ouais, il était tous les jours à côté d'elle et il se sentait complètement dépassé par les événements. Il était très malheureux à ce moment-là.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu au premier livre publié d'Albert Camus. C'était, je le disais, en mai 1937. C'était à la fois un essai et des nouvelles. Ça s'appelait « L'envers et l'endroit ». En voici un extrait.
La mère de l'enfant restait aussi silencieuse. En certaines circonstances, on lui posait une question. « À quoi penses-tu ?»« À rien », répondait-elle. « Et c'est bien vrai. Tout est là, donc rien. » Sa vie, ses intérêts, ses enfants se bornent à être là, d'une présence trop naturelle pour être sentie. Elle était infirme, pensait difficilement. Elle avait une mère rude et dominatrice qui sacrifiait tout à un amour-propre de bête susceptible et qui avait longtemps dominé l'esprit faible de sa fille. Émancipée par le mariage, celle-ci est docilement revenue, son mari mort. Il était mort au champ d'honneur, comme on dit. En bonne place, on peut voir dans un cadre doré la croix de guerre et la médaille militaire. L'hôpital a encore envoyé à la veuve un petit éclat d'obus, retrouvé dans les chairs. La veuve l'a gardé. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de chagrin. Elle a oublié son mari, mais parle encore du père de ses enfants. Elle ne pense à rien. Dehors, la lumière, les bruits. Ici, le silence dans la nuit. L'enfant grandira, apprendra. On l'élève et on lui demandera de la reconnaissance, comme si on lui évitait la douleur. Sa mère aura toujours ses silences.
La Compagnie des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier livre de Camus? Est-ce que ses idées sur le monde sont déjà un petit peu stabilisées? Il y a la question de la forme aussi de ce recueil qui est intéressante. Virgile Tanaz.
Ouais. J'hésite à parler sur l'œuvre, sauf que je constate que avec le premier homme, la boucle est bouclée et il retourne à ce silence de sa mère. Et les œuvres qui ont fait son succès, qu'il ne redit pas, qu'il reconnaît, qui ne le rendent pas heureux, mais enfin, il le reconnaît. Ne sont que un éloignement de ce premier livre vers lequel il va revenir à la fin.
Donc les œuvres qui ont fait son succès, ça va être pendant la guerre, donc quelques années plus tard, L'étranger et puis le mythe de Sisyphe. Avec le mythe de Sisyphe, il développe sa philosophie. Avec l'étranger, il invente une forme, il invente une écriture.
Oui, sans le faire exprès, vous savez, en France, il y a beaucoup le culte des modernistes, sauf que les grands auteurs modernes n'ont jamais voulu être modernes. Baudelaire ne se posait pas de question s'il est moderne ou pas. Camus invente une nouvelle écriture sans se poser la question. D'ailleurs, je crois... je soupçonne que, comme il était quand même cultivé, il lisait beaucoup, c'était l'époque où les grands écrivains, c'était ceux des grandes sagas, les Roger Martin du Gard, même Sartre a fait les chemins de la liberté, c'était les Forsyth, les... Et lui, il vient avec un petit livre de 150 pages, 200 pages, Et ça lui crée un complexe qu'il essaye de résoudre avec la peste, qu'il a publié, je ne dis pas contre son gré, mais il pensait qu'il a encore beaucoup à travailler là-dessus. Gallimard avait besoin d'un livre, il le payait depuis longtemps, alors Camus a accepté de le publier. Mais je crois que pendant tout ce temps, Camus, qui était très attentif à la littérature russe, avait comme idéal romanesque, d'un côté Dostoïevski, Les Possédés, et d'autre côté Tolstoï et Guerre et Paix.
Qu'est-ce qu'il fait pendant la guerre? Alors, il entre dans la résistance?
Il entre dans la résistance. Tout d'abord, il vient se soigner en France. Sa femme, il se marie. Enfin, il a réussi à divorcer de sa première femme, il se marie.
Avec sa Francine femme, Fort, il aura deux jumeaux, des jumeaux avec elle.
Et tout d'un coup, les Alliés débarquent en Afrique, les Allemands occupent la zone occupée, et Camus, il note dans son carnet, pris comme des rats. Il ne peut plus communiquer avec sa femme, avec sa famille. Et grâce à Pascal Pia, il entre dans la résistance et il est un vrai résistant. Et il participe à la revue clandestine Combat, et il prend des risques, il fait le guet quand on déplace une imprimerie clandestine, il est en rapport avec Pollan, qui est sauvé deux fois, une fois par l'officier allemand de la censure, Gerhard Heller, qui lui envoie un mot que la Gestapo sait qu'il y a une imprimerie clandestine chez lui et qu'il doit la déplacer. Et participe effectivement à la résistance.
Et à la fin de la guerre, c'est quelqu'un qui condamne la peine de mort, Camus, mais c'est quand même quelqu'un qui va juger, contrairement à d'autres comme Morial par exemple, qu'une épuration est nécessaire.
Oui, là, il y a une dispute de principe entre Mauriac et Camus. Et Mauriac reconnaît que, enfin, il a un interlocuteur de son niveau. Camus a un souvenir, le seul souvenir, un des rares souvenirs qu'il a sur son père, c'est que celui-ci, quand il a fait son service militaire, avait assisté à une exécution et qu'il s'était senti mal, qu'il avait vomi. Et physiquement, je crois, il ne peut pas supporter l'idée de la peine de mort. Mais qu'une épuration est nécessaire pour que on mette très bien la distinction entre le bien et le mal, ce qui ne s'est pas toujours fait.
Quoi qu'il soit difficile d'imaginer aujourd'hui ce que représentait Camus à cette époque, il était devenu célèbre d'un coup au lendemain de la Libération. Il représentait la séduction, la jeunesse, la pureté des temps nouveaux. Je crois que jamais un homme n'a coïncidé aussi bien avec une époque, et c'était une époque d'illusions généreuses. Évidemment, des déceptions sont venues depuis. Et tout le monde avait envie de connaître Camus à ce moment-là, Camus qui était l'auteur de L'étranger, du mythe de Sisyphe, l'auteur dramatique dont on jouait le malentendu, et surtout le rédacteur en chef de Combat, ce journal pour intellectuels, dont tout le monde parlait, que tout le monde lisait.
Alors l'après-guerre, pour Camus, Virgile Tanaz, c'est le moment d'une exposition médiatique très très importante. C'est vraiment l'une des stars de ce Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre.
Oui, et il l'assume avec ses articles dans Combat. Malheureusement, l'après-guerre, la société française se divise dans deux camps. Les capitalistes qui laborent, mais trouvent que c'est une société qui doit disparaître, mais qui offre une liberté. Et puis les communistes qui donne une justice sociale sans la liberté. Et Camus n'accepte ni l'un ni l'autre, ce qui fait que il n'est pas dans les deux cas qui s'affrontent et qui n'accepte pas, selon une le mot de Lénine d'ailleurs repris par tous les partis politiques, qui n'est pas avec nous et contre nous. Mm-hmm. Donc il est l'ennemi de tout le monde et l'homme à abattre. Mm-hmm. D'autant plus que la littérature, mais surtout ses prises de position dans le combat, lui donne une autorité que les deux camps veulent récupérer. Comme il ne se laisse pas récupérer, alors il faut le détruire.
Alors c'est notamment le cas au sujet de la guerre d'Algérie, où il a une position très singulière, très intermédiaire. On aura probablement l'occasion de revenir là-dessus dans l'émission de mercredi. À moins que vous vouliez immédiatement dire un mot, Virgile Tanaz, là-dessus.
Ah non, tout à fait. Pour lui, c'est une évidence. Les pauvres, les blancs d'Algérie ne sont pas tous des exploiteurs. Donc, il défend sa famille. Et donc, il croit qu'une solution peut exister au moment où les deux camps sont irréconciliables.
Il prend aussi beaucoup de positions sur la guerre d'Espagne, et là, évidemment, sans ambiguïté.
Oui, d'ailleurs, c'est un des moments où il entre ouvertement en conflit avec les autorités françaises. C'est au moment où l'Espagne est admise à l'UNESCO. Alors, il considère que il a une des phrases très dures. UNESCO, c'est une organisation pour l'enseignement. Et alors, dit, si on prend Goebbels pour éduquer les enfants, c'est ça ce qui est devenu l'UNESCO. Et la France accepte cette situation.
Alors, il faudrait parler de Maria Cazares. Je renvoie sur une émission de la Compagnie des auteurs à l'époque sur la correspondance Camus Cazares qui raconte leur amour à ce moment-là. Il faudrait dire un mot aussi de Mie, jeune fille de 22 ans, une blonde danoise qui va être un amour aussi très, très puissant pour Albert Camus.
Parler d'amour avec Maria Cazares, je dois vous dire que pour une étude qui finalement je n'ai pas publiée, j'ai lu attentivement non seulement ces 1000 pages de correspondance, mais aussi le livre de Maria Cazares, 500 pages aussi, et je doute fort qu'il s'agisse d'un amour.
C'est une passion?
Même pas, c'est une espèce de médecine pour Camus, mm-hmm. de désespéré qui s'accroche, c'est absolument... Vous avez la petite livre de correspondance avec René Char. À chaque page, il y a une idée, à chaque page, il y a quelque chose de très fort. Dans les 1000 pages de Maria Cazares, vous ne trouvez absolument rien. C'est d'une vacuité qui est très intéressante, sur laquelle il faudrait faire une étude dépassionnée pour voir à quel point on peut construire cet amour de théâtre, de comédie, je dirais presque, comme anxiolytique.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler durant cette semaine, tout comme on pourra réévoquer la mort tragique qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer justement de Albert Camus. Tout de suite, c'est le moment de retrouver la chronique dans Compagnie des Revues.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Guillaume Ledoirin du magazine Page des Libraires. Bonjour Guillaume.
Bonjour Mathieu, content de vous retrouver.
Et nous aussi. Vous venez nous parler du livre Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert, publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et Compagnie.
Alors, excellente collection de Bernard Coman, Fiction et Compagnie. Et c'est un livre atypique et je le qualifierais de en fusion. D'ailleurs, sur vos ondes, l'auteur en avait parlé à l'époque en disant qu'elle avait eu urgence à l'écrire. En effet, en 2019, elle va au procès France Télécom. Et au sortir de l'audience, elle a une obligation, une urgence à écrire un texte sur ce qu'elle a vu et entendu. Peut-être à trois niveaux. D'abord, elle veut rendre hommage et témoigner des gens qui ont été maltraités par cette entreprise. Certains sont morts. Elle le fait avec beaucoup de pudeur et d'élégance. Elle veut témoigner aussi certainement de ces dirigeants qui, avec beaucoup de cynisme, eux, ont fait ce qu'il fallait faire, le travail, le boulot qu'il fallait faire. Et puis surtout, je crois que là où elle est choquée, c'est sur le langage qui est utilisé pour parler de tout ça. Et en fait, le langage qui est utilisé, c'est le langage du capitalisme. Donc elle se dit, comment peut-on critiquer quelque chose en employant son propre langage? Donc elle est très étonnée par ça. Elle-même s'inclut là-dedans parce qu'elle sent qu'elle a été complètement imprégnée par cette manière de dire. Et en effet, elle trouve ça assez compliqué à expliquer.
Alors comment, quels outils finalement utilise-t-elle pour illustrer son propos?
Alors effectivement, elle utilise une très très belle phrase, c'est qu'elle dit qu'il faut donner des yeux à la pensée. Et pour cela, elle fait appel à des prosateurs opticiens. Donc le premier d'entre eux, c'est Franz Kafka avec la colonie pénitentiaire, avec cette fameuse machine, la herse, qui blesse, marque et finit par tuer les gens. Et cette machine s'autosuffit, l'homme qui la manipule est très content de ce qu'il fait. Elle convoque aussi Rabelais et ses mots gelés, ses mots de gueule. Elle convoque aussi Klemperer, le philologue, et elle-même dit qu'elle n'est pas une linguiste parce qu'elle n'a pas la patience, mais Klemperer, lui, avait décortiqué le langage du nazisme pour justement montrer que ce langage ouvrait à aucune contestation, aucune remise en question. Elle fait appel aussi à Melville et à Bartleby, ce personnage un petit peu entre les deux, qui à un moment collabore à ce flot, à ce fluide néolibéral, et puis à un moment il commence à s'opposer à ça, il dit « je ne préférerais ne pas », et finalement il est presque éjecté. Et finalement ces auteurs lui permettent de décortiquer cette vaste tuyauterie, comme elle le dit, dans laquelle circule un flot, et où les humains sont finalement pas grand-chose et balayés dès qu'ils ne correspondent plus à rien.
Donc un roman imprégné de littérature, au fond.
Un roman imprégné de littérature et qui, je trouve, a beaucoup, beaucoup de sens.
Et ben ça nous donne évidemment très envie de le lire. Ça nous donne également envie d'acheter le Page des libraires. On n'a pas besoin de l'acheter, d'ailleurs, puisqu'il est donné dans les librairies.
Normalement, il est donné.
Voilà, dans n'importe quelle des meilleures librairies de France. Merci beaucoup à vous, Guillaume Ledouarin. On vous retrouve donc dans Page des libraires et puis également très bientôt dans cette émission. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Romain Billet et aussi Anthony Thomasson. Demain, Agnès Spiekel, professeure émérite de littérature française à l'Université de Valenciennes, viendra nous parler de l'œuvre d'Albert Camus et notamment à travers les carnets de l'écrivain qui en était le laboratoire. À 22h30, vous retrouvez le projet Orloff dans les fictions de France Culture. Et à 22h15, avec Marie Richeux dans Par les temps qui courent, vous pourrez entendre l'écrivaine Lola Lafont.